La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Je suis pour la troisième semaine avec Clément Barouteau, qui est astrophysicien, qui est à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie à Toulouse et qui est spécialiste de la formation des systèmes planétaires, entre autres. Et on a parlé pendant déjà deux semaines des exoplanètes, c'est-à-dire des systèmes planétaires qu'on peut observer dans la galaxie. Et puis de l'importance d'observer la formation de ces systèmes planétaires. Et on a la chance, bon, c'est une chance, mais c'est aussi l'évolution de la technologie et des besoins des astronomes. Donc on a la chance d'avoir des instruments maintenant qui permettent d'observer en détail des systèmes planétaires en formation. Donc cette semaine, on va aller un petit peu plus loin pour voir comment, à partir de ces observations, on peut en déduire des informations précises sur la façon dont se forment les planètes autour d'une étoile. Alors Clément, tu veux bien nous parler un petit peu plus de tout ça ?
Avec plaisir. Ben donc, la semaine dernière, on parlait de structure dans l'émission des disques protoplanétaires. Donc, quand on observe le gaz, les poussières des disques protoplanétaires, donc on voit un certain nombre de structures et parmi ces structures-là, on voit des anneaux sombres et brillants dans l'émission des poussières. Et ben, en particulier, les anneaux sombres, ils sont très intéressants parce qu'ils peuvent être créés par des planètes en formation dans leurs disques protoplanétaires. C'est quelque chose qu'on attend par la théorie et notamment aussi par les simulations numériques. Donc, quand on modélise l'évolution du gaz, des poussières d'un disque protoplanétaire avec une ou plusieurs planètes à l'intérieur, on se rend compte que naturellement, la planète, elle va agir un peu comme un chasse-neige autour de sa trajectoire, autour de son orbite. Elle a tendance à éjecter le matériel solide. Donc, vers l'extérieur de son orbite.
Attends, là, je suis un peu surprise. Moi, je croyais qu'au contraire, elles accrétaient la matière, c'est-à-dire qu'elles grossissaient en récupérant de la matière. Et toi, tu dis qu'elles l'éjectent comme un chasse-neige.
Eh bien, en réalité, les deux se produisent, Sylvie. Les deux en même temps. C'est-à-dire qu'à la fois, donc, on va avoir du matériel solide qui va effectivement être accrété, mais il n'y a pas que de la gravité, figure-toi, dans les disques protoplanétaires. Il y a aussi des perturbations fluides qu'on appelle des ondes. Et ces ondes vont avoir tendance à essayer de pousser, d'éjecter, de vider le contenu en matière solide qui est immédiatement autour de l'orbite des planètes. Et donc, il y a un certain nombre de disques protoplanétaires. Alors, peut-être le plus emblématique d'entre eux, on en parlait la semaine dernière, c'est Acheltô, pour lequel on a découvert un certain nombre d'anneaux sombres quand on l'observe avec le radiotélescope ALMA. Hein, donc, dans le domaine radio, on voit un disque donc, typiquement qui a presque une centaine d'unités astronomiques.
Ça, c'est la distance de la Terre au Soleil. C'est pas la distance de la Terre au Soleil.
Donc, il faut imaginer un disque qui est typiquement trois fois plus étendu que la distance entre le Soleil et Neptune, juste pour fixer un ordre d'idée. Donc, on a vraiment quelque chose d'assez large et pour lequel donc, on observe donc, entre 3, 4, peut-être même plus d'anneaux sombres dans l'émission des poussières. Et donc, la première idée qui est apparue dans la communauté, ça a été de proposer que chaque anneau sombre serait dû à la présence d'une planète.
Oui, c'est ce que je pensais, moi. C'est ce que je croyais, mais apparemment, c'est plus compliqué.
Alors, ça peut être plus compliqué. Alors, moi, il s'avère que je travaille sur les interactions entre les planètes en formation et leurs disques protoplanétaires. Maintenant, est-ce que chaque structure dans un disque protoplanétaire est associée à une planète ? Ça, par contre, justement, la question qui est débattue, c'est pas parce qu'on voit une structure, par exemple, on parlait d'anneaux sombres à l'instant, c'est pas parce qu'on voit un anneau sombre dans l'émission d'un disque protoplanétaire que nécessairement il y a une planète. D'ailleurs, en fait, si on reprend donc l'exemple des anneaux sombres dans l'émission des poussières, on cherche à traquer est-ce qu'on peut voir la planète directement ou parfois indirectement. Est-ce qu'on arrive à voir une espèce de blob d'émission qui serait donc dû à l'environnement, donc mettons de poussière, vraiment autour de la planète qui est en train d'accréter cette matière. D'ailleurs, tu en parlais à l'instant, hein, la planète, elle accrète aussi. Donc voilà, est-ce qu'on arrive à voir la planète directement?
Donc, c'est extrêmement compliqué, en fait, parce que si je résume un peu, il y a un disque de gaz et de poussière qui tourne autour de l'étoile en formation, mais en même temps, à l'intérieur, il y a des perturbations, il y a des mouvements, il y a des, ce que tu appelles des vortex, c'est-à-dire des tourbillons, il y a des vents, il y a des déplacements, il y a des ondes. Donc, c'est extrêmement compliqué. C'est un énorme travail de simulation pour essayer de comprendre tout ça.
Oui, absolument. Et l'une des raisons pour laquelle on s'intéresse à tous ces aspects-là, c'est qu'on parlait d'exoplanètes, justement, donc dans la première émission. Et donc, ce qu'on a pu dire, en fait, c'est que les exoplanètes qu'on détecte, elles ont toutes plusieurs milliards d'années. C'est-à-dire qu'on ne voit que des planètes autour d'étoiles qui ont déjà vécu une bonne partie de leur vie. Et ce que nous apprend la théorie, c'est qu'il peut se passer plein de choses dans les premiers millions d'années de vie des étoiles, donc quand le disque protoplanétaire est là. Donc il y a beaucoup de mécanismes qui vont conduire à une grande mobilité des planètes dans leur disque protoplanétaire. Donc on a ces interactions entre les planètes et leur disque protoplanétaire qui vont commencer à façonner, à structurer les systèmes planétaires. Mais une fois que le disque protoplanétaire se dissipe au bout de plusieurs millions d'années, notamment parce qu'il est accrété par l'étoile ou il est évacué par des vents, il y a encore plein d'autres mécanismes qui sont à même de changer l'architecture, la structure des systèmes planétaires. Donc c'est compliqué quand on n'a que des étoiles et des planètes âgées de plusieurs milliards d'années, voir finalement l'importance relative des mécanismes d'évolution des planètes dans les premiers millions d'années et ce qui va se passer bien longtemps après. Donc c'est pour ça que on essaye de plus en plus d'aller chercher signatures de la formation des planètes en allant observer les disques protoplanétaires. Parce que ça nous permet finalement de contraindre les scénarios de croissance, d'évolution des planètes dans les premiers millions d'années. Mais voilà, le problème, c'est qu'on voit, on arrive à bien caractériser l'émission des disques protoplanétaires. On a vu, donc, on a parlé plusieurs fois qu'il y avait des structures. Mais voilà, encore une fois, actuellement, malgré le nombre important d'observations, le nombre important de disques qui ont été observés, il n'y a qu'un seul disque pour lequel on voit vraiment les planètes directement et les structures associées. Tous les autres disques, donc les plusieurs centaines de disques qui ont été observés, on voit des structures, mais on ne voit pas directement les planètes. Et comme tu me l'as rappelé à l'instant, Sylvie, les disques protoplanétaires, c'est des environnements qui sont complexes. C'est des environnements fluide, avec énormément de mécanismes physiques qui peuvent conduire à ce qu'on appelle des instabilités, de la turbulence, c'est-à-dire des mouvements un petit peu désordonnés du fluide, qui peuvent être à même de créer les structures que l'on voit aussi dans l'émission des disques protoplanétaires. Un champ magnétique aussi, est-ce qu'il s'avère, ça aide ?
Champ magnétique, ouais. On ne va pas commencer, parce que si on commence à parler de champ magnétique, mais c'est extrêmement important, et ça, on le voit de plus en plus. Ce champ magnétique qu'on retrouve partout, et en particulier là, oui.
Absolument, oui. Quand on étudie les interactions entre disques et planètes, quand on essaie d'expliquer en fait ces structures, souvent, du point de vue de la modélisation des simulations, on va imaginer une planète avec une certaine masse à une certaine distance de son étoile. On regarde avec une simulation le type de structure que ça crée. On crée une image de cette simulation qui va ressembler le plus possible aux observations. Et puis de là, on est en mesure de dire oui ou non, est-ce qu'une planète, elle peut expliquer les structures qu'on voit. Mais les planètes, elles évoluent au cours du temps. Elles évoluent notamment du point de vue de leur distance à l'étoile. Et en particulier, les planètes jeunes, on s'attend à ce qu'elles aient une grande mobilité dans leur disposition.
Une migration, comme on parlait la semaine dernière,
Tout à fait, voilà, la migration planétaire.
Par frottement avec la matière du disque, où il n'y a pas que ça?
C'est en fait une interaction gravitationnelle entre la planète et son disque. Bon, l'idée, c'est qu'en gros, la planète, elle perturbe le disque, il répond à cette perturbation. Les planètes vont migrer. Alors, soit elles se rapprochent, soit elles s'éloignent de leur étoile, ça dépend de plein de choses, de la masse des planètes, des propriétés des disques, c'est tout un pan de recherche assez passionnant. Mais toujours est-il qu'on s'attend à ce que les planètes, elles migrent. Et donc, ça veut dire qu'au cours du temps, une planète va avoir, la migration planétaire va aussi avoir une incidence sur la dynamique et également l'émission des poussières de son disque.
Donc, en fait, tout ça est hyper compliqué. Il faut peut-être rappeler que ce sont des recherches actuelles récente et que c'est pour ça qu'on n'a pas des certitudes. En fait, de toute façon, on n'a jamais complètement des certitudes en science, mais enfin, là, c'est vraiment la recherche en marche.
Tout à fait.
Voilà.
C'est une recherche qui est permise aussi parce qu'on a les outils de modélisation qui permettent justement de faire ce type de recherche. On a donc des simulations sur ordinateur de plus en plus complexes qui permettent des calculs de plus en plus précis et qui permettent de faire le lien avec les observations. Généralement, Sylvie, les observations vont plus vite que nous. Le progrès au niveau des observations est souvent beaucoup plus rapide que les progrès qu'on peut faire, nous, en théorie et simulation.
Là, on a fait le point sur ce qu'on sait à l'époque actuelle de la formation des planètes et la formation des étoiles aussi, ça va ensemble. Les étoiles, on peut rappeler qu'on a trouvé que c'était normal qu'une étoile se forme avec un disque autour. Ça, c'est important.
Tout à fait. À la fois quelque chose qui est démontré par les observations et c'est aussi quelque chose qui est démontré par les modèles théoriques,
voilà.
Par les simulations.
Et on comprend théoriquement, voilà. Et tout ça, ça tourne. Il faut se rappeler que tout tourne.
Tout tourne, effectivement. C'est des structures qui... Alors, si on s'intéresse à la formation des étoiles, donc initialement, on a un grand... nuage de gaz, de toute petite poussière qui, en s'effondrant, va former une structure avec une étoile au centre et effectivement, donc, une structure qui va former un disque par les forces en présence, la gravité, l'accélération centrifuge. On a toutes ces forces-là qui se combinent pour former donc un disque avec du gaz et des poussières autour de ces étoiles jeunes.
Très bien, mais en parlant de tout ça, j'imagine que nos auditeurs doivent se dire, et nous dans tout ça, il y a la vie sur la Terre, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Donc finalement, on va peut-être faire une quatrième émission avec toi, mais cette fois-ci sur le sujet de que peut-on dire de la vie? On a plusieurs recherches dans cette direction et on peut en parler un petit peu la semaine prochaine, si tu veux bien revenir encore une fois.
Avec grand plaisir, Sylvie.
Merci Clément, à la semaine prochaine.